Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de finir la semaine avec vous et avec Culture Média au menu Média et Culture au sens large. Tous les médias et toutes les formes de culture. Par exemple, aujourd'hui, on va partir à la découverte de l'artiste François and the Atlas Mountain et aussi à la redécouverte du pain perdu. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu. Ce sera aux alentours de 10h20. Bertrand Chameroy pour son écran de veille, puis Eva Rock pour le zapping du lendemain. Et avant cela, dans quelques instants, le journal des médias d'Antoine Genton et les audiences de Louise Bernard. Je vous dis juste cela, il y a des surprises. Notre infomédia autour de Muséum TV, la première chaîne dédiée à l'art, dont on n'a jamais eu autant besoin avec la fermeture des musées et des grandes expositions. Elle est déjà disponible dans 15 millions de foyers en France. Et puis nos invités, Alessandra Sublet, l'animatrice, et Mathieu Vergne, son producteur pour Duo Mystère. Une nouvelle mécanique d'émission de variété ce soir sur TF1. Avant même d'avoir démarré en France, le format de l'émission a été vendu dans 12 pays, y compris les États-Unis. En quoi ces duos sont-ils mystères ? Mystère. Enfin, le jeune humoriste Az, qu'on peut entendre désormais tous les samedis soirs dans l'émission On est en direct de Laurent Ruquier, le seul à me faire éclater de rire une salle avec un sketch sur les pailles biodégradables, ou alors cette question, avec quoi fait-on les banderoles dans les manifs ? C'est assez rare pour être signalé. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Antoine Genton.
Salut Philippe, bonjour à tous.
Antoine, au sommaire de votre journal des médias.
Une nouvelle arrivée sur Twitch, encore une.
Encore
un changement à la tête du groupe L'Équipe et puis un événement en Australie.
Mais d'abord, les audiences avec vous Louise, j'ai dit qu'il y avait des surprises. Qu'ont regardé les Français hier soir ?
Haha, mystère. Non, c'était F1 sans surprise qui se classe en tête avec Section de recherche, 2 épisodes, 4 700 000 téléspectateurs, 23,5% de part d'audience. Ensuite, France 3 avec son film une comédie avec Agnès Jaoui, Aurore, 2 370 000 téléspectateurs, 10,8% de part d'audience. Et France 2, envoyé spécial, 1 900 000 téléspectateurs, 9,1% de part d'audience. La surprise, c'est M6 qui est une petite catastrophe pour la série This Is Us, saison 4, un peu plus d'un million seulement et 5% de part d'audience. C'était le début de la saison 4 qui était diffusée hier soir. Ce qui fait qu'Arte est devant M6 avec En Thérapie qui est toujours au-dessus du million.
Culture Média.
On passe maintenant au journal des médias d'Antoine Genton. Antoine, c'est le grand jour pour Thierry Beccaro.
Oui, c'est ce soir qu'il se lance sur Twitch, le service de streaming en direct, décidément très populaire en ce moment. L'ancien animateur du jeu Motus y fera un live intitulé « De tout et de rien » chaque semaine, avec un principe tout simple, apporter un peu de compagnie et de réconfort à ceux qui voudront bien le regarder.
Parler avec toutes celles et tous ceux qui, en ce moment, dans cette période qu'on traverse, sont assez seuls, jeunes, moins jeunes, personnes âgées. Et je me dis que ça pourrait les intéresser, s'ils m'aiment bien, de bavarder 5 minutes avec moi. On peut aborder tous les thèmes, je le ferai le plus simplement du monde, avec mon expérience, et puis l'envie d'un sourire, quoi, l'envie d'un échange. Ça manque tellement en ce moment, ça manque tellement. Je me dis peut-être que voilà, ça va faire plaisir à quelques personnes de me retrouver.
Voilà, ce dialogue devrait durer 45 minutes environ, et Thierry Beccaro ne sera pas seul. C'est le journaliste belge David Barbet qui va l'accompagner, c'est lui qui va gérer le direct. C'est d'ailleurs lui aussi qui a poussé Thierry Beccaro à se lancer sur Twitch. Déçu de ne plus voir l'animateur à l'antenne, cela fait près de 2 ans maintenant qu'il a quitté France Télévisions. Thierry Beccaro pour se consacrer à ses activités de comédien à la télévision et au théâtre. Malgré ses 30 ans de carrière comme animateur sur le petit écran, il promet de ne pas faire de télévision sur Twitch.
Les purs et durs de la plateforme se sont dit « Ah, il va faire une émission. Non, je serai tel que je serai, quoi. Vraiment pas maquillé, il n'y a pas de phare. Voilà, je serai tel que on ne me connaît peut-être pas d'ailleurs. » Tel que j'ai pas eu forcément l'occasion de me montrer parce que il y a des codes en télé qui a certainement pas sur des plateformes comme Twitch. On fait du direct, du chat. Même si j'ai eu vraiment la chance à France Télévisions de pouvoir être moi-même et avoir une liberté d'expression qui est quand même... Là, je me plains pas. J'ai été vraiment, vraiment chanceux.
Et on lui souhaite d'être aussi chanceux sur Twitch. Thierry Beccaro avec David Barbet. C'est à partir de 19h ce soir sur la toute nouvelle chaîne de l'animateur.
Contraste, cette fois, c'est pour la télévision, une pièce de théâtre créée pour la télé.
Oui, pour France 2, création inédite avec Guillaume de Tonquédec en tête d'affiche. D'après les informations du Parisien, Times Square, c'est son titre, l'histoire d'un comédien cabossé, démotivé, qui finit par reprendre goût à son métier. Elle sera diffusée en prime time après sa captation, qui devrait avoir lieu fin avril. Elle pourrait ensuite se jouer dans les théâtres, enfin quand ils rouvriront. Bref, c'est le monde à l'envers.
Et puis, changement de direction à la tête du groupe L'Équipe.
C'est Laurent Prudhomme qui va diriger désormais l'entreprise, lui qui vient d'y arriver. C'était au tout début de l'année, après avoir passé 10 ans chez Eurosport et Discovery France. Il sera chargé de continuer à rapprocher les trois piliers du groupe, le journal, le site web et la chaîne. Il va devoir aussi poursuivre le plan d'économie engagé par son prédécesseur Jean-Louis Pellet, qui, selon le Figaro, devrait prendre la présidence du groupe Nice Matin. Un plan d'économie qui avait entraîné, vous vous en souvenez peut-être, la plus longue grève de l'histoire du journal L'Équipe, 2 semaines le mois dernier. Un mouvement qui a été suspendu il y a un peu plus de 4 semaines maintenant.
Je m'en souviens très bien, on a longuement suivi ce feuilleton. Ça y est, Google et Facebook sont déjà désormais obligés de payer les médias pour les contenus qu'ils leur fournissent.
Et c'est un événement majeur, même si cela ne concerne que l'Australie pour le moment. Une loi a été officiellement adoptée hier, après des mois de bras de fer entre ces deux géants du numérique et le gouvernement australien. Événement majeur donc, parce que c'est une première dans le monde. Ce texte pourrait inspirer d'autres pays, un texte qui a donné d'ailleurs ses premiers fruits. Google a déjà négocié des accords avec 2 grands groupes australiens. Ils portent sur des millions d'euros, les chiffres précis ne sont pas connus. Mais le plus récalcitrant dans ce dossier, c'était Facebook qui, vous vous en souvenez peut-être, avait bloqué sur sa plateforme les contenus de tous les médias australiens pendant quelques jours. Avant-hier, changement de ton, la société de Mark Zuckerberg annonce qu'elle va investir dans les médias 1 milliard de dollars, 820 millions d'euros d'ici 2024, sans donner toutefois plus de précision. De l'argent en tout cas, bienvenue pour les médias.
Et on continue à parler milliards avec Twitter qui se fixe un objectif très élevé.
Le réseau social veut doubler ses revenus en 3 ans de 3 à 6 milliards d'euros. C'est la première fois qu'il donne publiquement un objectif à long terme sans détailler les moyens qu'il souhaite utiliser pour l'atteindre. Cela dit, pour cela, on sait que Twitter réfléchit déjà à de nouveaux services payants.
Les salles sont fermées, voici le streaming comme nouvel Eldorado des studios de cinéma.
Oui, ce n'est pas nouveau, mais cela se confirme semaine après semaine. Après Disney qui annonce tout miser sur le streaming, c'est au tour de Viacom CBS d'étoffer son offre en jouant sur la chronologie des médias. Les films produits par ces studios seront diffusés sur sa future plateforme Paramount Plus seulement 2 mois après leur sortie en salle. Paramount Plus sera lancé jeudi prochain aux États-Unis.
Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver avec d'autres dans la newsletter Média d'Europe 1. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire sur europe1.fr. Ensuite, vous avez même l'image de ce qui se passe dans ce studio. Je salue, vous pouvez le voir, Louise Bernard et Antoine Genton. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. On se retrouve lundi, on vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias et les audiences du week-end. À suivre, notre info média du jour focus sur Muséum TV, première chaîne dédiée à l'art qui ne cesse de se développer et qui touche désormais 15 millions de foyers. On en parle avec Nella Pavlouskova, directrice générale de la chaîne, et Bruno Lécluse, c'est le président du groupe Secom qui possède justement Muséum TV. À tout de suite.
L'émission référence sur les médias, c'est Europe 1 Culture Média. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
C'est une chaîne singulière dont nous allons parler ce matin, Muséum TV. D'abord parce qu'elle est la seule à être dédiée à l'art, peinture, sculpture, dessin, photographie, entre autres. Ensuite, parce qu'elle se développe, ce qui par les temps qui courent n'est pas si évident ni si courant. Elle affirme toucher désormais 15 millions de foyers en France et elle vient d'intégrer les offres de 2 opérateurs, Orange et Bouygues Télécom. Bonjour Nella Pavlouskova.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de Muséum TV, en ligne, en direct avec nous également. Bruno Lécluse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du groupe qui possède Muséum TV, le groupe Secom, propriétaire d'une 12aine de chaînes diffusées dans 100 de pays. Alors tout d'abord, Nella Pavlouskova, c'est quoi Muséum TV? Comment définir puis décrire votre chaîne?
Alors, Muséum TV est une chaîne sur l'art qui parle de toutes les formes de l'art visuel avec un aspect très particulier que nous voulons rendre l'art accessible à tous. Donc, lorsqu'on s'adresse à ces 15 millions de foyers en France, mais également on est dans plus de 40 pays à l'international. On souhaite que l'art soit ludique, créatif, accessible, amusant et divertissant.
Oui, alors vous dites des arts visuels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique, pas de concert, pas de théâtre, pas de cinéma, mais ça reste quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire. Elle a fêté ses 10 ans, créée en décembre 2010. Elle a beaucoup évolué. On va en parler justement, mais sa forme actuelle remonte à 2017. Bruno Lécluse, on va parler de quelques-uns des programme de Muséum, mais d'abord Muséum TV, pardon, mais avant cela, un mot de sa création. Les arts plastiques sont très peu traités à la télévision. Il y a quelques documentaires, quelques programmes courts. Il y a eu Dardar, aujourd'hui c'est O Afrique Art. Bref, la peinture, la sculpture, le dessin ne font pas partie des sujets qui attirent le plus les téléspectateurs et les patrons de chaîne. Pourquoi vous vous êtes dit alors, tiens, je vais faire une chaîne, je vais faire cette chaîne. D'où vient l'idée, d'où vient le déclic?
Alors effectivement, je pense que l'avenir de la télévision en France, c'est d'être spécialisé. Et le déclic, c'est qu'à partir du moment où on a choisi l'art, il y avait dans le monde déjà de quelques chaînes qui traitaient des arts en général, ce que vous avez décrit, et toute forme d'art. Nous, nous avons voulu nous spécialiser dans l'art graphique parce que vraiment notre conviction profonde, c'est de se dire que l'avenir de la télévision dans les 10 prochaines années, c'est cette spécialisation. C'est aussi pour ça que nous lançons un service OTT à la fois linéaire et non linéaire. Parce que l'avenir de la télé avec la publicité adressée, par exemple, c'est d'avoir un public bien précis. Et l'art graphique se prête bien aussi à la télévision. Nous sommes la première chaîne linéaire à produire en 4K, donc en ultra haute définition. Et finalement, l'art graphique est complètement adapté à ces nouvelles technologies qui ne sont pas de la technologie pour faire de la technologie, mais qui apporte vraiment un plus quand vous pouvez voir une œuvre d'art avec pratiquement la qualité de l'œil. Mmh. Il y a vraiment quelque chose de fort, d'où notre choix de nous spécialiser dans l'art graphique, parce qu'on a beaucoup de choses. Hein. On a les beaux-arts, on a l'art pop, le street art, la photo, et nous avons rajouté l'architecture et le design. Donc vous voyez, on a déjà de quoi faire très largement.
Je m'adresse au patron que vous êtes. On parlera évidemment du business model tout à l'heure, mais est-ce que c'est du mécénat ou est-ce que c'est rentable? Ou est-ce que c'est une passion et que l'art contemporain, et ou pas forcément contemporain d'ailleurs, est votre passion, Bruno Lécluse?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, pour être éditeur de chaîne thématique, il faut quand même au départ avoir une passion. Donc, nous avons toute une équipe qui fabrique la chaîne, qui est une équipe de passionnés d'art. Et cette passion, à mon avis, est le moteur principal du succès d'une chaîne. Nous avons notre toute première chaîne du groupe, c'est la chaîne Mélodie qui fête ses 20 ans. Autour de Mélodie, il y a également une équipe de passionnés.
J'ai mal posé ma question. Je vais mieux formuler ma question. En leur temps, Franck Thénault et Daniel Filippaki avaient un journal qu'ils avaient créé qui était Jazz Hot. Et ensuite, le journal n'était pas rentable, mais comme leur passion, c'était le jazz, ils continuaient à maintenir à flot ce journal, quand bien même était-il déficitaire. C'était ça le sens de ma question. Est-ce qu'il y a une part de mécénat, oui, ou est-ce que la chaîne est à l'équilibre?
Non, il n'y a pas du tout de mécénat parce que nous sommes un groupe privé avec des actionnaires privés qui n'ont pas de volonté de faire du mécénat dans nos thématiques. Donc nous sommes vraiment des spécialistes de la chaîne thématique et toutes nos chaînes doivent être rentables. Donc c'est une chaîne, certes dans les premières années, qui n'a pas été rentable, mais aujourd'hui avec son développement à l'international, donc Néla l'a dit, nous sommes dans une quarantaine de pays. Et nous visons les 100, puisque d'autres chaînes du groupe sont plus largement distribuées. Donc évidemment, non, ça n'est absolument pas du mécénat, mais c'est vraiment de l'entreprise avec la volonté d'être au moins positif pour l'ensemble de nos chaînes thématiques.
C'est la deuxième bonne nouvelle, que l'art soit rentable. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Vos programmes, ils sont nombreux. Il y a les événementiels, ceux qui sont consacrés à 2 ou 3 grands thèmes par mois. Exemple, ce mois-ci, le thème, c'est Vincent Van Gogh. Le mois prochain, ce sont les femmes dans l'art. On va y revenir. Et puis, il y a des programmes récurrents, des documentaires encore, et quelques émissions, dont celle-ci. Antiquiz, ça se prononce à l'anglaise, Antiquiz Roadshow, magazine britannique emblématique inédit en France. Ça fait pourtant 42 ans qu'il existe et qu'il est diffusé outre-Manche. Et à l'écoute de cet extrait, ça va forcément vous faire penser à une émission à succès.
J'adore cette émission. C'est exactement ce que j'aime voir dans Antiquiz Show. Regardez l'expression sur la figure de ce monsieur. Je veux dire, il a l'air complètement ridicule comme chasseur avec ce chapeau, assoufflé dans son corps un peu taché. L'expression sur la tête du cheval, on dirait presque du cubisme, mais c'est merveilleusement rare. Et ça devient encore mieux quand on la retourne. Ce n'est pas dur à dater, 1829 MM. Ça devrait être un cadeau spécial, peut-être pour un mariage, peut-être pour une majorité, on n'en est pas sûr, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est rare. Pour un collectionneur, c'est une perle rare, et dans un super état. Moi, je dirais que, dans une vente aux enchères, il y en aurait pour au moins 1000 livres.
Une émission dans laquelle des gens viennent présenter et faire estimer des antiquités par des experts. Nella Pavlouskova, c'est un peu à faire conclure l'émission de France 2, non?
Alors, Antique Roadshow est justement une émission, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a ses aspects très accessibles, puisque sur Muséum TV, vous retrouvez des émissions très pointues, des documentaires sur différentes artistes, différentes formes de l'art, mais dans nos prime time, nous souhaitons avoir des émissions de divertissement. Donc justement, Antique Roadshow est diffusé dans les primes 20h30 tous les vendredis. Mmh. Et c'est le format original de la BBC qui est diffusé sur Muséum, localisé évidemment en français, et qui nous apporte cet aspect très populaire de l'art, l'art que nous avons chez nous, dans nos greniers, et où nous découvrons sa vraie valeur avec les experts pendant ces ventes aux enchères, et en même temps parcourons tout le Royaume-Uni. Donc ça nous permet de nous évader également pendant ces temps difficiles.
Alors pour être précis, savoir qui s'est inspiré de qui, je précise qu'Affaire conclue, c'est en fait une adaptation d'un programme allemand, Bares für Rares, lui-même inspiré d'Antique Roadshow, qui est produit, vous l'avez dit, par la BBC depuis 79. Bruno Lécluse, vos programmes, vous les achetez pour l'essentiel à l'étranger, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France. Est-ce qu'il y a beaucoup de programmes autour de l'art? Est-ce que les catalogues des sociétés de production sont fournis ou est-ce qu'il faut vraiment aller à la pêche?
Alors, en fait, il y a beaucoup de volumes, effectivement, parce que, bah, évidemment, l'art est une source d'inspiration illimitée. Par contre, à partir du moment où on essaye d'y adapter notre filtre, qui est que la télévision doit être divertissante, l'art est aussi une forme de divertissement. Donc on ne veut pas faire des programmes élitistes. À partir du moment où on applique cet angle d'achat, avec donc des programmes plutôt divertissants, effectivement, les volumes sont un peu inférieurs. Et quand nous appliquons notre dernière règle, qui est de dire idéalement des programmes qui sont en très haute définition, ultra haute définition, 4K. Mmh. Là, effectivement, les catalogues sont moins importants. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous coproduisons un certain nombre de programmes pour répondre à ces critères de divertissement et de très haute qualité technique de l'image.
Eh bien justement, on va parler des programmes inédits qu'on peut trouver sur Muséum TV avec Nella Pavlouskova qui est sa directrice et puis Bruno Lécluse, le président du groupe qui possède Muséum TV. C'est le groupe Secom. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de Muséum TV, chaîne dédiée à l'art contemporain, accessible ici en France sur les box Orange et Bouygues Télécom et l'art et l'art contemporain, mais pas seulement l'art contemporain, l'art. Nous sommes avec Nella Pavlouskova qui est la directrice de Muséum TV et Bruno Lécluse qui est le président du groupe Secom, groupe qui possède une douzaine de chaînes diffusées dans une centaine de pays, dont Muséum TV. Donc je l'ai dit, il y a des programmes inédits sur Muséum TV, des émissions que vous produisez comme visite privée. C'est une visite d'exposition en anglais sketch Sketchbook pour apprendre à dessiner.
Salut, bienvenue dans Sketchbook. Donc aujourd'hui, on va vous apprendre à dessiner. En tout cas, on va dessiner nous et on va voir si vous arrivez à faire un peu comme nous ou comme vous voulez de toute façon. Donc je commence avec un volume ici, un autre assez simple, en essayant de respecter dans l'espace, voilà, à peu près. Donc, j'espère qu'à la caméra, vous voyez un peu mes traits de construction. J'essaye de faire épais, mais généralement, j'ai fait beaucoup plus fin.
Là, on est dans l'émission Sketchbook. Il s'agit d'apprendre à dessiner une main. Le présentateur Raphaël Federici est dans un atelier face à un modèle. C'est pas facile à expliquer, c'est pas facile à filmer non plus. Nella Pavlouskova, comment vous y êtes pris?
Alors nous voulions justement faire une émission et dans le cadre de notre programmation qui s'appelle Atelier Muséum, apporter à nos téléspectateurs des programmes où ils peuvent créer avec nous, apprendre à peindre, apprendre à dessiner, apprendre aussi l'histoire de l'art, etc. Enfin, vraiment être immergé dans l'art. Donc autour de Sketchbook, on voulait être à la fois ludique et divertissant. Donc, on s'est un peu inspiré, vous savez, de ce canapé dans Friends, ouais, où il y a des amis artistes qui sont assis, qui se rencontrent pour travailler ensemble sur un thème. Donc, le téléspectateur peut à la fois suivre leur histoire, parce que il y a bien sûr des gossips, des histoires. Il y en a qui s'aiment pas, il y en a qui s'aiment.
Donc, les gossips, c'est les ragots. Il y en a qui s'aiment pas.
Mais il y en a un, mais c'est un prof de l'art, il est très chiant, il a ses techniques qu'il veut tout à fait respecter, etc. Il y a des street artistes, ouais, il y a des illustrateurs, donc du coup, vous suivez au travers de l'histoire, l'histoire de ce groupe d'amis. Et en même temps, vous apprenez à dessiner, vous apprenez différentes techniques et vous pouvez suivre si vous souhaitez dessiner comme cet illustrateur, si vous souhaitez faire la version un peu street art, etc. Donc toujours du divertissement, mais également des tutos ludiques, comment créer.
On a compris. Nella Pavlouskova, émission doublée en anglais et en russe. Pour quelle raison vous êtes diffusée dans les pays anglo-saxons et aussi en Russie?
Alors, aujourd'hui, on est dans plus de 40 pays. Donc, la chaîne, dans sa version internationale, elle existe en anglais, français, russe et en polonais. Mm-hmm. Donc, on localise la chaîne à chaque fois selon nos différents développements sur le marché. Donc, la langue originale, c'est le français, puisqu'elle est produite par nos soins en France avec les Français. Mais, du coup, elle est doublée dans les autres langues pour la distribution internationale.
Alors, d'autres programmes, on peut par exemple apprendre les techniques de dessin, de peinture. Et Museum TV propose une autre émission, Les paysages à travers le temps, présentée par un artiste américain, il s'appelle David Dunlop, dans des lieux peints par les plus grands artistes. Exemple, la Provence autour de Cézanne.
Comment cette vallée des régions rurales du sud de la Provence, vers Aix-en-Provence, a vu naître un artiste en 1839, Paul Cézanne, qui conduira l'art du 19e siècle au XXe siècle, qui amènera l'art de l'impressionnisme au modernisme. Je suis David Dunlop, je suis peintre paysagiste et je suis ici avec certains de mes étudiants. Nous allons installer nos chevalets exactement où Paul Cézanne a mis le sien. Nous allons essayer de démêler les mystères de Paul Cézanne, ses techniques, ses idées, ses procédés. Et nous allons le faire devant le paysage qui l'a inspiré. Et cette montagne Sainte-Victoire qui a ensorcelé Paul Cézanne tout au long de sa vie.
Évidemment, tableau connu dans le monde entier, pas seulement aux États-Unis, mais on comprend évidemment que ça intéresse les pays à l'étranger. Bruno Lécluse, Nella Pavlouskova a dit que l'émission était diffusée à l'étranger. En France, où peut-on voir Museum TV ?
Alors, donc aujourd'hui, nous sommes historiquement sur les offres Canal, hein, puisque nous avons été exclusifs pendant 4 ans sur les offres Canal. Et aujourd'hui, on élargit la distribution. Donc nous sommes maintenant chez Orange, bientôt chez Bouygues, et en discussion très avancée avec deux autres plateformes bien connues en France. Donc notre ambition, on aimerait avant la fin de l'année être sur l'ensemble des offres françaises.
Est-ce que la diffusion actuelle vous a apporté de nouveaux abonnés et est-ce qu'il y a eu un effet confinement sur Museum TV ?
L'effet confinement, nous l'avons senti sur l'offre à la demande. C'est-à-dire qu'effectivement, tous nos programmes sont répliqués dans les kiosques chez chacun de nos opérateurs. Et là, nous avons vu pratiquement un doublement du téléchargement de programmes. Et effectivement, pendant la période du confinement, c'était, j'allais dire, même très surprenant parce que relativement mécanique, on pouvait pratiquement sur nos courbes retrouver les dates de confinement.
Ouais, je souris parce que
c'était
je me dis
très fort sur le premier confinement où là, nous avons vu, je vous dis, un doublement des téléchargements, notamment sur tout ce qui est exposition, visite de musée. Donc effectivement, nous avons senti cet effet. Il s'est estompé dans le deuxième confinement, c'était moins flagrant. Mais en tout cas, nous avons vraiment senti ça sur le mois de mars.
Oui, parce qu'on peut s'abonner, se désabonner sur votre plateforme OTT. L'abonnement est payant. Combien coûte l'abonnement ?
Alors, nous avons pris un abonnement qui est un peu plus de 9 euros. Ça peut paraître élevé, évidemment. Beaucoup nous font la remarque. Mais nous partons du principe qu'à partir du moment où nous voulons faire une offre sur de très haute qualité avec beaucoup de programmes, quand vous achetez une revue sur l'art, vous la payez un prix qui est proche de cela, vous la lisez en 2 heures. Nous, pour ce même prix, nous vous offrons une chaîne que vous pouvez regarder longuement tout au long du mois.
Combien d'abonnés ?
Beaucoup d'offres.
Combien d'abonnés ?
Alors aujourd'hui, l'offre OTT vient de démarrer, hein, puisqu'elle a démarré ici en début d'année. Donc aujourd'hui, ça reste, tout à fait en démarrage. On abonne quelques centaines d'abonnés toutes les semaines. Donc on va bientôt arriver à plusieurs milliers. Ouais. Mais c'est tout à fait le début. Et ma conviction vraiment profonde, c'est que face aux offres OTT, grand public, auxquelles évidemment on n'a pas du tout la prétention de vouloir s'attaquer, des offres OTT spécialisées, comme la presse magazine, peuvent se développer. Et comme nous sommes à l'international, nous pensons que déjà rien que sur la langue française, on doit pouvoir atteindre à peu près 30 000 abonnés, à peu près 50 000 sur la langue anglaise, et après décliner dans nos différentes langues, elle l'a dit, en russe, en polonais. La Russie est un pays qui aime beaucoup, beaucoup cette chaîne. Et donc... nous avons du potentiel.
OTT, c'est les plateformes dédiées où on peut aller, c'est over the top. Museum TV appartient à un groupe audiovisuel peu connu du grand public, c'est le groupe Secom, c'est vous qui le dirigez, Bruno Lécluse, groupe local dans le nord de la France. Parmi ses actionnaires, il y a quelques grandes fortunes nordistes, comme la famille Muliez, qui sont propriétaires d'Auchan ou Decathlon notamment. Et puis, j'ai vu qu'il y avait aussi un certain Michel Drucker. Est-ce que c'est bien celui qu'on connaît tous ? Qu'est-ce qu'il vient faire chez vous, Michel Drucker ?
Alors, c'est tout à fait bien lui, effectivement. Michel est devenu actionnaire de la chaîne dans ses tout débuts. Il était venu répondre tout simplement à un interview en plateau pour la chaîne Mélodie, donc qui est vraiment la chaîne du patrimoine de chanson la chanson française. Voilà. Et à l'issue de son passage chez nous, il nous a dit « Mais vraiment, je retrouve une ambiance extraordinaire dans cette chaîne. J'ai l'impression de revivre les débuts de l'ORTF. »
Je ne vais, pas vous demander la somme, mais je vais vous demander le pourcentage. Il a combien, Michel Drucker ? Il a 1%, 2%, 10%, 20% ?
Non, il doit avoir 3 ou 4%, mais nous sommes un capital qui est assez fragmenté parce que le plus gros actionnaire a 20%. Donc Michel, avec 3-4%, a une vraie place en tout cas. Et c'est un très très fidèle soutien, notamment de cette chaîne Mélodie.
Voilà qui fait plaisir. Merci beaucoup Bruno Lécluse, président du groupe Secom. C'est vous le propriétaire, entre autres, de Museum TV. Et merci beaucoup Anela Pavlouskova. Vous êtes la directrice générale de la chaîne. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. À suivre l'animatrice Alessandra Sublet et le producteur Mathieu Vergne à l'occasion des Duos Mystères, nouveau divertissement de TF1 qui démarre ce soir et qui met en avant 24 personnalités. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elles ne savent pas avec qui elles vont devoir chanter. Mais nous, on le sait, mais on ne dira pas tout. Mais on dira quand même un petit peu. À tout de suite.
L'émission référence sur les médias, c'est Europe 1 Culture Média. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Alessandra Sublet.
Bonjour Philippe Vandel.
Plaisir de vous entendre. Vous êtes l'animatrice qui monte à TF1 après ses Comptes Loups, après Masked Singer, après Star à Nu, après le grand concours des animateurs. Vous présentez un grand show de variété, Duo Mystère, ce soir à 21h sur TF1. Bonjour Mathieu Vergne.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le producteur de l'émission. Vous travaillez au sein de DMLS TV avec Anne Marcassu, productrice notamment des Enfoirés. J'en parle parce qu'elle sera, Anne Marcassu, notre invitée vendredi 5 mars. Mais donc ce soir, la nouveauté, c'est Duo Mystère. C'est un divertissement autour de la chanson, mais avec une mécanique nouvelle. Racontez le principe de l'émission, Mathieu Vergne.
Le principe est très simple, c'est deux artistes qui arrivent sur un plateau pour faire un duo, mais ils ne savent pas avec qui. Donc on a réussi à les faire venir sans qu'ils connaissent et la chanson et avec qui ils vont chanter. Ils sont séparés
ils connaissent la chanson.
Ils connaissent la chanson juste avant, on leur annonce la chanson.
Pas du tout, j'ai vu les répétitions, j'ai vu le début de l'émission et on les voit en train... Ah oui, mais ils le savent pour la répétition.
Quand ils arrivent sur le plateau pour répéter, ils arrivent dans l'après-midi, ils répètent avec un répétiteur. D'accord. Et ensuite ils sont sur le plateau et ils sont séparés donc par un mur. Ouais. Et ils vont, pendant la chanson, on va lever le mur et là ils vont découvrir qui est en face d'eux puisque... Juste avant que le mur se lève, ils ont des voix truquées.
Trafiquées. C'est-à-dire qu'on entend l'autre qui chante, mais la voix est trafiquée, j'imagine, comme un canard pour qu'on ne puisse pas reconnaître le timbre de voix.
On essaie de faire quelque chose de plus joli parce qu'ils chantent, il faut qu'ils soient concentrés dans leur chanson, mais effectivement, c'est ça. Et par contre, les spectateurs entendent les vraies voix. Et donc, il y a une partie jeu pour les spectateurs puisqu'ils vont, eux, ils vont s'amuser à découvrir qui est cette voix.
Alessandra Sublet, quel est votre rôle, à part présenter l'émission, évidemment, c'est de mettre les candidats sur des fausses pistes, si j'ai bien compris.
Non, je peux être espiègle de temps en temps, Philippe. À peine. En fait, l'idée, c'est soit de leur apporter la chanson last minute et ils la découvrent et donc on a leur réaction à ce moment-là parce qu'ils commencent à gamberger sur avec qui je vais faire ce duo-là parce qu'ils choisissent pas la chanson. Mmh. Et puis l'autre rôle, effectivement, c'est de les déstabiliser un peu. C'est chouette que des artistes acceptent de venir chanter avec quelqu'un qui connaissent forcément parce qu'il y a toujours une histoire entre ces deux artistes, ça c'est important. Et d'ailleurs, même moi, après des années de talk, j'ai découvert des histoires merveilleuses, donc c'est plutôt encourageant. Et puis c'est chouette encore une fois qu'ils nous fassent confiance et qu'ils viennent comme ça chanter à l'aveugle. Encore une fois, il y a une répétition et après c'est un one shot, c'est-à-dire on la refait pas cette prise là.
Ah, on la refait pas. Bah oui, puisqu'on peut pas refaire les émotions. On va voir après.
Exactement. Donc ils nous cueillent parce qu'en fait tout est vrai. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a rien de. Tout est travaillé dans cette émission sur la production, mais rien n'est fake en fait au niveau de l'émotion.
J'ai compris. J'ai vu 40 minutes, pas davantage, parce que justement vous voulez garder le secret. On vous comprend. 24 artistes en tout, 20. On va pas tout divulgâcher, comme on dit en français. On peut déjà annoncer Jane Birkin, Patrick Fiori, Daniel Lévy, Camélia Jordana, Jarry, Marine Delterme, Pomme, Inès Reg, Lio, Gancourt Malade. Et on remarque les noms dans cette liste de la comédienne Marine Delterme ou de la comique Inès Reg. Ce sont pas des chanteuses. Il y a des numéros de casserole ?
Non, justement, c'était vraiment un truc important qu'on a voulu avec Anne Marcassus et Alessandra, c'est d'avoir à chaque fois que ça chante très bien. Parce qu'avant tout, c'est une émission de variété et c'est des très beaux duos. Et c'est vraiment, si vous voulez, même s'il n'y avait pas toute la mécanique autour, on passe un très bon moment à écouter ces chanteurs. Mmh. Et donc, quand c'est des artistes qui ne sont pas des chanteurs professionnels, c'est des artistes qui chantent très bien. Vous allez voir qu'Inès Reg chante très bien, Jarry chante très bien et Marine Delterme aussi chante très bien. Donc, à chaque fois, ça fait des très beaux moments.
Ouais. Après la chanson et le duo qu'ils viennent découvrir, je ne vous dirai pas évidemment lequel ni la chanson. Alessandra, vous faites un premier bilan avec Patrick Fiori et même l'auto-promo de l'émission à l'intérieur même de l'émission. J'avais encore jamais vu ça.
T'as vécu beaucoup d'émotions en télé. Tu connais ça par cœur, Patrick.
Ouais.
Duo mystère, c'est l'étape au-dessus, non?
Ah ben on est au-dessus, ben oui. Ben non, mais il faut se rendre compte quand même. Alors les gens de la télévision deviennent complètement fous. Je sais pas à quoi ils pensent, je sais pas quelles sont leurs réunions, je sais pas ce qu'ils mangent, on sait pas ce qu'ils boivent.
C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous buvez, Mathieu Vergne?
Écoutez, on essaie de renouveler un peu la variété. C'est vrai que DBS TV, moi je suis arrivé il y a 3 ans, mais Anne Marcassus a créé cette boîte il y a 20 ans. Et ils font des émissions de télé de variété depuis 20 ans. Et c'est vrai que ça s'essouffle à la télé, la variété juste simple, quoi, je dirais.
Il ne suffit pas de passer un chanteur qui chante sa chanson et qui s'en
va. On a la possibilité de les écouter sur les plateformes, partout, etc. Donc il faut amener quelque chose de plus. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec La Chance Secrète, avec Duo Mystère, d'amener, et surtout, comme disait Alessandra, d'amener des émotions sincères et des moments de télé où il peut se passer tout. Quoi. On regarde cette émission, il peut tout se passer.
Et d'amener les invités au sens propre du terme avec un dispositif même géographique pour que les chanteurs, les chanteuses ne se croisent pas. Alessandra, racontez le dispositif du tournage.
Mais en fait, il y a deux entrées, effectivement, pour la scène et les loges. Donc, il y a une entrée A, une entrée B. Et ils ne se croisent jamais jusqu'au moment où le mur se lève. Donc, oui. Mais vous savez, je rebondis sur un truc que dit Mathieu et qui est très vrai. C'est que le téléspectateur devient exigeant aussi. Et c'est normal. Il a l'habitude de voir des programmes. Ouais. Il est aussi bon juge que nous. Et on a tout intérêt aussi à lui servir de bons programmes. Et j'ajouterais, mais je suis sûre que vous allez en parler parce que Mathieu sera peut-être trop humble pour le dire tout de suite, que c'est une création française, que c'est
évidemment,
lui
je vais en parler.
Qui l'a couché sur le papier. Et bah ouais, mais c'est bien parce qu'on parle beaucoup de formats étrangers, mais nous en France on n'a absolument pas à rougir de ce qui se fait ailleurs.
Pour tout vous dire, je l'ai même dit dans l'intro de l'émission tout à l'heure à 9h06 en disant que le format a été repris, on en parlera parce qu'il a été repris dans pas moins de 12 pays. Je vais donner un autre exemple, je ne dis pas qui elles sont, c'est une chanteuse et sa sœur. Très fort le moment où chacune découvre qui est l'autre. Quand le miroir se soulève, elle n'arrive quasiment plus à chanter. Écoutez. Très émouvant, elles n'arrivent même plus à chanter, elles sont entre le rire, les larmes, elles perdent leur souffle et puis c'est pas fini, parce qu'après la chanson elles sont comme ça sur le plateau et en off quoi. Avant qu'Alessandra leur parle, il y a ce dialogue entre elles deux.
J'ai reconnu tes pieds là, j'ai même pas attendu de voir le visage. Les pieds de la famille.
Ah, mais toi, là. Je suis choquée. Je suis trop heureuse.
Ouais, moi aussi.
Ah, voilà, à chaque fois, je me retrouve dans ces situations bizarres. Là,
Non, c'était trop bien.
C'était bien, mais je t'entendais pas, du coup.
Moi non plus.
Mais toi, tu savais que c'était moi, oui. Enfin. Je suis ce matin.
Il faut que j'explique, c'est que le miroir se soulève et donc avant de voir la personne en entier, on voit ses pieds. Et elle lui dit, j'ai reconnu tes pieds, c'est les pieds de la famille. Et vous Alessandra, vous étiez émue comme moi je l'étais et comme les filles l'ont été?
Oui, parce qu'on vit encore une fois à l'instant T une émotion, une vraie émotion. Et que c'est beau de voir ça parce qu'en fait, voilà, en télé, on a l'habitude d'artistes qui répètent, qui sont prêts et moi, ça m'a vachement touchée. Je suis très, très fière d'animer ce programme. Et je suis très fière aussi de la façon dont on a décidé de l'animer. C'est-à-dire, on n'introduit pas de façon normale tous les plateaux. On est en coulisses. Il n'y a pas de logistique d'animateur devant le prompteur. Enfin, je veux dire, voilà, c'est assez fluide, c'est assez léger. Et on laisse vraiment la part belle aux artistes et à ce qu'ils ressentent tout de suite, quoi.
Ça, on est d'accord. On n'est pas chez Guy Lux et Simone Garnier. Je suis bien d'accord avec vous. Mathieu Verne est d'accord avec moi. Vous restez avec nous. Mathieu Verne, Alessandra Sublet, on parle de duo mystère. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Duo Mystère, c'est ce soir sur TF1 à 21h. C'est une nouvelle façon de filmer de la chanson française. Le duo en notre compagnie n'est pas mystère. C'est Mathieu Verne, le producteur de l'émission, et Alessandra Sublet, la présentatrice. Alors Alessandra, j'ai pas vu toute l'émission. TF1 garde le secret. Est-ce qu'à la fin, vous chantez aussi?
Bah, vaut mieux pas pour eux, parce que sinon, il y a une baisse d'audience sur la fin de l'émission.
Mais... Alessandra, sans déconner, ouais. j'allais dire un gros mot, vous avez quand même chanté pour Pierre Perret.
Ouais,
j'allais
dire. On se connaît Philippe, ouais, on se connaît.
Non, mais vous avez quand même chanté pour Pierre Perret et dans Star à nu, vous avez quand même fait le striptease final. Donc là, vous auriez pu chanter.
Non mais attendez, certes, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Ouais. Mais enfin, Pierre Perret, je vous assure que j'ai répété et je tremblais quand je chantais. Non, c'est pas mon métier. En revanche, il faut le dire, il y a des artistes, hormis les chanteurs, qui chantent très très bien. Et vous l'avez dit, c'est un secret pour personne. Inès Reg et Jarry font partie du casting et ça envoie. Mais quand je vous dis ça envoie, même moi, je suis restée stoïque.
Ouais. Mathieu Verne, pour l'instant, c'est un one shot ou est-ce qu'il y en aura d'autres ou est-ce que c'est une série? Vous attendez l'audience
On attend l'audience. Je veux dire, c'est toujours pareil. Si ça plaît aux téléspectateurs, on en fera d'autres sur TF1. Si ça plaît pas, ça restera un one shot.
Alors, c'est assez rare pour être signalé. Alessandra l'a dit, le format duo mystère est une création française conçue par DMLS TV, votre société de production avec Anne Marcassus. À ma connaissance, c'est une première. Vous avez déjà vendu le format dans plusieurs pays, pas moins de 12. Je vais les citer. États-Unis. Pas facile à vendre là-bas. Angleterre, idem. Suède, Norvège, Australie, Danemark, Allemagne, Israël, Italie, Espagne, Portugal, Finlande. Avant même la diffusion en France, est-ce qu'ils ont déjà mis des émissions à l'antenne que vous avez pu voir?
Non. C'est vraiment le début là. Mais en tout cas, on est très contents. Effectivement, l'émission s'explique de façon très simple, en une phrase. Donc c'est vrai que quand ça a été pitché par les équipes qui s'occupent de vendre à l'étranger, tous les pays ont compris. En plus, bon, ils savaient que c'était le... entre guillemets, par le producteur de la chanson secrète. Et du coup, il y avait un côté les chansons secrètes qui marchent très bien. Je vais en Italie mardi parce que c'est tourné pour la Rai Uno, pour 5 émissions sur Rai Uno. Donc, on est très fiers de ça. Et donc, il y a eu vraiment beaucoup d'engouement pour acheter le format duo mystère. Donc, on est très contents.
Chansons secrètes, on peut le voir dans quel pays, en plus de l'Italie?
En Finlande, ça a été diffusé là en janvier et il y a d'autres pays qui sont en train de préparer la production. Donc après, il y a eu le Covid qui a ralenti un peu tout ça, mais on est très contents. L'Italie, c'est un très beau pays.
Alors la chanson secrète, il y a un invité qui se fait surprendre par une chanson chantée par un autre invité, même s'il n'a pas lui-même à chanter. Dans The Voice, vous avez inventé le chanteur dont on ne voit pas le visage au début. Mask Singer, on a inventé le chanteur dont on ne voit jamais le visage. Dans Duo Mystère, on ne voit pas le chanteur, mais on sait qu'il a un secret. Pour dire les choses, Mathieu Verne, Alessandra Sublet, c'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce qu'il reste à inventer?
Attendez. Bah, moi, je dis que la bonne nouvelle, déjà, c'est qu'on invente.
Ouais. C'est une vraie question. C'est comme quand vous faites un polar. Qu'est-ce qu'on peut faire comme polar qui n'est pas déjà été écrit? Qu'est-ce qui reste à inventer? C'est une vraie question sérieuse une boutade.
On se pose la question tous les jours, hein, parce que nous, on essaie vraiment de créer nos propres formats. On a deux formats là, qui sont plutôt un talent show et une mini-émission un peu sur le guessing, comme on dit, c'est-à-dire...
Guessing deviner.
Voilà, de façon de deviner, comme effectivement Mask Singer ou d'autres jeux. Donc voilà, on va essayer de les proposer aux chaînes, mais on se pose la question tous les jours. Hein. Tous les matins, on se réveille en disant, tiens, qu'est-ce qu'on peut essayer d'imaginer comme nouvelle émission?
Alessandra Sublet, vous êtes également productrice. Vous avez imaginé des nouvelles émissions de variété ou pas du tout? Vous êtes plutôt, vous, sur les docs?
Non, moi j'aime plutôt les docs parce que j'aime bien la transmission. Et c'est un vrai métier, hein, la production de variété, ce que fait Mathieu et ce que fait Anne Marcassus. Et franchement, on peut leur tirer notre chapeau parce qu'il suffit pas simplement de se mettre devant une feuille blanche tous les jours et de se dire tiens, non, ça demande beaucoup de travail. L'aboutissement d'un concept comme vous allez le voir ce soir, bah c'est parfois des mois voire des années de travail encore une fois. Et il faut aussi que la chaîne adhère. Et c'est chouette qu'il y ait voilà TF1 qui suive aussi et qu'encourage des producteurs à créer, parce que finalement, en fait, encore une fois, on peut être aussi meilleur que les autres.
Alors, je vais parler de l'avenir pour chacun d'entre vous. Mathieu Vern, vous êtes l'ancien producteur de la Starac, des saisons 3 à la saison 7. Si on en croit vos échanges de tweets avec Nikos Aliagas, il se dit que l'émission pourrait revenir. Est-ce que vous confirmez?
Déjà, ce ne sera pas moi qui la produirai, parce que c'est une informante de vol. Donc je souhaite que ça revienne. Pour moi, on en parlait encore en coulisses tout à l'heure. C'est une émission qui est la première émission que j'ai faite et qui m'a marqué profondément. Et c'est, je pense, une émission qui je ne retrouverai plus jamais. J'ai l'impression tellement c'était fort. Mais j'espère que ça reviendra. Mais après, c'est compliqué parce qu'on avait quand même des stars internationales toutes les semaines. Et je pense que les stars internationales se déplacent beaucoup moins en France. Donc c'est compliqué à refaire. Je me demande si ce n'est pas entre guillemets comme une Madeleine qui serait décevante à revoir. Il faut la garder peut-être au chaud, mais peut-être des gens arriveront à la faire bien.
Prospective avec vous également, Alessandra Sublet. Il y a quelques semaines, vous animez le grand concours des animateurs. Au début, je me suis laissé dire que vous ne vouliez pas présenter l'émission et que c'est vraiment Brigitte Macron qui vous a convaincu.
C'est-à-dire que au début, en fait, je la regarde pas forcément l'émission. Donc en fait, ça m'ennuie un petit peu de la présenter. Moi, j'aime bien faire des choses que je regarde. Et quand après, on m'a dit, bah alors, on peut faire une spéciale pièce jaune. Et ce serait bien que tu rencontres Brigitte Macron. J'ai dit, peut-être aller la voir quand même. Donc oui, ça a changé la donne parce que du coup, j'ai trouvé qu'on donnait du sens à cette émission. Parce que derrière le chèque de 75 000 euros à la fin de l'émission, c'est des enfants et des adolescents hospitalisés qui en profitent ainsi que leur famille. Et donc du coup, je me sentais utile.
Alors vous êtes allé la voir à l'Élysée et elle vous a fait des petites confidences, notamment sur Donald Trump. Je voudrais que vous racontiez la confidence.
En fait, on visite l'Élysée et puis j'ai dit bon, je suis pas très pointue sur la culture, donc il faut vraiment un peu m'expliquer tout ce qu'il y a. Donc elle me le fait vraiment super bien. Et puis d'un coup, on arrive dans une petite aile avec une petite salle de bain, une toilette. Et elle me dit bon, écoute, là c'est très drôle parce que Donald Trump s'est enfermé dans les mêmes toilettes où tu es. Il a jamais su comment ouvrir la porte. Et tout... J'ai dit, quand même, oui, champion du monde. Mais elle est, vous savez quoi? Elle est tellement nature, Brigitte Macron. Elle est tellement chouette. Je dis pas ça du tout parce que c'est la première dame. C'est que ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui ne cherche pas ses mots, qui n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Et du coup, on a vraiment passé un bon moment.
Et puis, l'autre info que vous venez de donner, l'air de rien, c'est que vous vous tutoyez. Est-ce qu'il y aura d'autres grands concours des animateurs animés par vous? C'était juste, là encore, un one-shot?
Bah, je sais pas trop. En fait, vous savez, Arthur est le producteur maintenant du grand concours des animateurs depuis qu'il a racheté Sony. Et donc, du coup, moi, j'ai dit pourquoi pas réfléchir à le faire différemment. Peut-être pas forcément avec des animateurs. Mais autant essayer de creuser aussi. Vous voyez, ça aussi, ça fait partie de ce que j'aime faire. Et donc, on est dessus.
Voilà, le grand concours des animateurs sans animateurs. Merci beaucoup, Alessandra Sublet. Je reconnais là votre esprit retors. Merci beaucoup,
Merci
Mathieu
Philippe.
Berne.
Merci, Philippe.
Vous êtes le producteur via DMLS TV. Duo Mystère, c'est ce soir sur TF1 à 21h. Et si vous ratez l'émission de ce soir, non seulement il y a le replay, mais en plus, il y a 12 pays dans lesquels l'avoir. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec une série documentaire très délicate sur la vie des éleveurs et agriculteurs. Et puis Bertrand Chameroy pour un écran de veille, non pas animal, mais familial. Notre invité adore parodier les chanteurs et les rappeurs. C'est l'humoriste Az qui sera avec nous. Et puis dans les indispensables, une découverte musicale et une Madeleine de Proust, on en parlait, mais c'est une autre que celle à laquelle faisait allusion Mathieu Vern. Madeleine de Proust qui va rebooster notre morale. Je ne vous dis que ça, à tout de suite.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.